Ottawa, Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Irune Yermanongbo pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 1er novembre 2019. Voici les titres. Au Bénin, le Parlement a voté la limitation des mandats présidentiels et législatifs. Au Nigeria voisin, 15 personnes ont été libérées d'une maison de correction religieuse. Nous en parlerons dans cette édition. Marée humaine dans les rues d'Alger. Il réclame une nouvelle indépendance 65 ans après la cession à la souveraineté du pays. Aux États-Unis, on parlera des incendies qui ravagent l'État de la Californie. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Mais tout d'abord, le journal. Au Bénin, le Parlement a adopté aujourd'hui une révision constitutionnelle prévoyant qu'un président ne pourra pas faire plus de 2 mandats dans sa vie. Un poste de vice-président a été également créé. Claire Morin-Gibourg.
Sans surprise, la loi portant révision de la Constitution a été votée à l'unanimité des 83 députés de la majorité. Une quarantaine d'articles ont été modifiés. La limitation à 2 mandats présidentiels reste inchangée, mais la Constitution précise maintenant que le président de la République ne peut faire plus de 2 mandats dans sa vie. L'ancienne formulation évoquait un mandat renouvelable une fois. Les députés ne pourront plus excéder 3 mandats, alors qu'aucune limitation n'était jusque-là prévue pour les parlementaires. Le nouveau texte prévoit en outre la création d'un poste de vice-président élu en duo avec le président de la République à la majorité absolue des suffrages lors d'un scrutin à 2 tours. L'abolition de la peine de mort et une meilleure représentation des femmes au Parlement sont également prévues par cette révision. L'opposition, absente du Parlement suite à son exclusion des législatives en avril dernier, a annoncé de nouvelles manifestations pour protester contre cette révision constitutionnelle.
Nous reviendrons sur ce dossier en partie magazine. Au moins 22 personnes sont mortes et 10 autres blessées dans l'accident d'un camion de transport de minerais survenu sur une route du sud-est de la République démocratique du Congo, a annoncé la police congolaise. De nombreux passagers se trouvaient sur le chargement de cassitérite quand le camion s'est renversé à la hauteur du village de Moutetania sur la route reliant Manono à Lubumbashi. Il s'agit d'un camion de l'entreprise Mining Mineral Resources, une firme indienne immatriculée en Tanzanie. L'RDC a projeté de produire 30 187 000 tonnes de cassitérite en 2019. Au Botswana, le président Mokgweetsi Masisi reconduit dans ses fonctions après la victoire de son parti aux législatives du 23 octobre a officiellement prêté serment ce vendredi à Gaborone en l'absence remarquée de son prédécesseur Yann Kama avec qui il entretient des relations exécrables. Selon le programme officiel de la cérémonie organisée dans un stade de la capitale, Yann Kama était attendu mais l'ancien chef de l'État ne s'est pas présenté. Une guerre fratricide oppose les deux hommes, tous les deux issus du Parti démocratique du Botswana, qui dirige le Botswana depuis l'indépendance en 1966. Yann Kama accuse Mokgweetsi Masisi, son ancien vice-président, de dérive autoritaire et a appelé lors des élections d'octobre à voter pour l'opposition. En Afrique du Sud, un tribunal a demandé ce vendredi au ministre de la Justice de se prononcer sur l'extradition de l'ex-ministre mozambicain des Finances, Manuel Chang, arrêté l'an dernier à Johannesburg pour son implication présumée dans un vaste scandale de corruption et réclamé par le Mozambique et les États-Unis. Chang est détenu en Afrique du Sud depuis décembre 2018 à la demande des autorités américaines pour sa participation présumée à des prêts frauduleux de 2000 milliards de dollars et à des entreprises d'État du Mozambique. Il est accusé d'avoir perçu plusieurs millions de dollars de pots de vin en marge de cette affaire. Washington estime que des investisseurs américains auraient été lésés par ces montages, demande son extradition au même titre que son pays, le Mozambique. Une marée humaine a envahi ce vendredi les rues du centre d'Alger, 65 ans jour pour jour après le début de la lutte armée contre le colonisateur français. Ils disent réclamer une nouvelle indépendance de l'Algérie. Le point avec Abdourahmane Dia.
En ce 37e vendredi consécutif de manifestations, la mobilisation est semblable à celle constatée au plus fort du Hirak, le mouvement de contestation dont l'Algérie est le théâtre depuis le 22 février. Les rues autour de la Grande Poste, bâtiment emblématique du cœur d'Alger, est devenu le lieu de rassemblement des manifestations hebdomadaires. Sont noires de monde et résonnent de slogans tels que « L'Algérie veut son indépendance, le peuple veut son indépendance ». Vous avez vendu le pays aux traîtres, scandent aussi les manifestants à l'adresse des dirigeants algériens. Le 1er novembre 1954, le Front de Libération Nationale déclenche la révolution algérienne et la lutte armée pour l'indépendance avec une série d'attentats simultanés sur le territoire algérien. Décrété fête de la révolution, le 1er novembre est férié en Algérie. Moins forte durant l'été, en raison de la chaleur et des vacances scolaires, la mobilisation contre le système au pouvoir depuis l'indépendance a repris à la rentrée scolaire et ne cesse de s'étoffer. Le pays doit élire le 12 décembre le successeur d'Abdelaziz Bouteflika, mais les manifestants continuent de s'opposer à la tenue de ce scrutin.
La police nigériane a libéré 15 personnes enchaînées dans un lieu de prière de Lagos lors d'un des raids menés contre des maisons de correction religieuse à travers tout le pays. Nathalie Barge.
La police de l'État de Lagos a pris d'assaut une maison de prière utilisée comme prison mercredi soir, où des victimes âgées de 19 à 50 ans ont été retrouvées enchaînées aux jambes. 10 personnes ont été arrêtées, ainsi que le pasteur de l'église de la bénédiction de la bonté, Sunday Joseph Ojo, qui se déclare prophète. Les victimes avaient été amenées par leur famille pour une aide spirituelle dans le traitement de maladies mentales et autres. Certains ont passé plus de 5 ans dans ce camp de détention. Ce raid fait suite à plusieurs autres dans divers centres de correction islamique dans le nord et le centre du Nigeria, où des centaines de personnes, dont des enfants, étaient maltraitées et enchaînées.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Organisation mondiale du commerce a autorisé ce vendredi Pékin à imposer des sanctions sur 3,6 milliards de dollars de produits américains par an dans un litige vieux de 6 ans portant sur des mesures anti-doping prises par Washington. C'est la première fois que l'OMC autorise la Chine à sanctionner des produits américains. Pékin avait toutefois réclamé la possibilité de pouvoir sanctionner jusqu'à plus de 7 milliards de dollars par an. Ici aux États-Unis, l'État de la Californie est toujours confronté à des incendies avec un nouveau départ de feu qui s'est déclaré la nuit dernière. Le point avec Michel Joseph.
Le nouvel incendie, Maria Fire, a déjà ravagé 2000 hectares, entraînant l'évacuation de plus de 7000 personnes dans cette région du Grand Los Angeles. Les sapeurs-pompiers continuent de combattre le sinistre, aidés en cela par des hélicoptères qui larguent des trombes d'eau sur le feu. D'autres équipes s'activent avec acharnement contre deux autres incendies, Hillside Fire et 46 Fire, dans cette même région. À titre de précaution, de nombreux quartiers ont été évacués. Compte tenu de cette situation sans précédent, le service météorologique américain a créé une alerte dite « extrêmement rouge ». Les causes exactes des incendies qui ravagent le sud de la Californie ne sont pas connues, mais selon le porte-parole des pompiers du comté de San Bernardino, les vents violents sont le principal facteur favorisant la propagation des flammes et entravant la lutte contre le feu. À noter que le rythme des incendies en Californie s'est accéléré ces dernières années, avec notamment le Camp Fire de novembre 2018 qui avait fait 86 morts.
La conférence internationale sur le climat COP25 se tiendra en Espagne début décembre en lieu et place du Chili qui a renoncé en raison de la crise sociale qui secoue le pays, a annoncé l'Organisation des Nations Unies. La COP25 aura lieu du 2 au 13 décembre à Madrid en Espagne, a tweeté Patricia Espinosa, la responsable climat de l'ONU. Environ 25 000 délégués, dont la jeune militante suédoise Greta Thunberg, sont attendus à cette rencontre. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington. À présent, à la Minute Éco avec Nanit Talani.
La Banque africaine de développement a annoncé une augmentation de capital de 115 milliards de dollars, la plus importante de son histoire, pour accélérer le développement du continent. Les projets prioritaires sont notamment de connecter 105 millions de personnes à l'électricité, d'assurer une meilleure sécurité alimentaire pour 244 millions d'Africains, un meilleur accès au transport et un accès à l'eau et à l'assainissement, a détaillé le président de la BAD, Akinwumi Adesina. La Côte d'Ivoire, qui a perdu en un demi-siècle la quasi-totalité de ses forêts, a lancé un inventaire général pour établir des données statistiques fiables sur ses ressources forestières et fauniques en vue d'approuver un plan de reboisement, a annoncé Martial Mekwame, directeur de cabinet adjoint du ministère des Eaux et Forêts, lors de la cérémonie de lancement hier à Abidjan. L'inventaire national IFFN va durer 2 ans. Le précédent datait de 1978. Une rencontre ministérielle au sujet du barrage sur le Nil bleu entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie se tiendra le 6 novembre à Washington, selon le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Shoukry. Les trois pays se rencontreront aux États-Unis afin de sortir de l'impasse des négociations concernant le barrage de la Renaissance, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse cette semaine avec son homologue allemand Heiko Maas.
C'était plutôt Nathalie Barge et non Nanit Talani. Merci Nathalie. Une fois en passant, n'est pas coutume, la page sport, ce sera avec Timothée Donagmaï. Timothée, bonsoir.
Bonsoir, Irénée.
Phase de groupe de la Coupe du Monde des moins de 17 ans au Brésil. L'Afrique en bonne position pour la suite de la compétition.
Avec le Nigeria qui affronte ce soir l'Australie dans le groupe B, les Aiglons nigériens occupent la tête de ce groupe avec 6 points. Les jeunes Angolais, 6 points, en 2 matchs, croiseront le fer avec le pays hôte ce soir. À noter aussi l'excellente position des Lionceaux sénégalais qui trônent en tête du groupe D avec 6 points. En revanche, grosse déception pour les petits Lions du Cameroun dont la besace demeure désespérément vide. Après 2 matchs joués, Team USA dans le groupe D s'accroche à un mince espoir avec 1 point en 2 matchs.
Football sur le continent maintenant avec le Diliba de Bamako qui accorde l'hospitalité à Elect Sport de N'Djamena. Un match retour du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération.
Et oui, Irénée, l'enjeu est de taille pour les deux clubs puisque le vainqueur se qualifiera pour la phase de groupe de cette compétition. Avantage au Diliba, vainqueur 1-0 dans la capitale tchadienne et qui bénéficiera du soutien de son public. Au micro de notre correspondant Siaka Traoré, écoutons le coach du Diliba, Georges Kouadio.
1-0, ce n'est pas rien, c'est déjà quelque chose. Avec cet acquis, nous allons essayer encore de marquer ici des buts pour pouvoir consolider notre acquis. Le match retour se prépare bien, que ce soit les joueurs, que ce soit les supporters, que ce soit les dirigeants, tout le monde est concentré pour pouvoir réussir cette étape.
C'était le coach du Diliba de Bamako, Georges Kouadio, au micro de Siaka Traoré. Toujours dans le tour de cadrage de la Coupe de la CAF, match difficile en perspective pour TS Galaxy contre Enyimba, vainqueur 2-0 à l'aller.
Un mot de tennis avec les Masters de Paris où Novak Djokovic s'est qualifié pour les demi-finales.
Le numéro 1 mondial s'est défait en 58 minutes de Stefanos Tsitsipas en 2-7, 6-1 et 6-2. Il affrontera Grigor Dimitrov, vainqueur en 2-7 de Christian Garin. Toujours à Paris, Rafael Nadal affronte en quart de finale Joe Wilfried Tsonga ce soir. Les tennis women sont à pied d'œuvre au tournoi WTA de Shenzhen en Chine où Elina Svitolina a défait 1-2-7 Sofia Kenin en quart de finale. Victoire aussi de Karolina Pliskova 2-7-1 face à Simona Halep.
Quelques résultats du championnat nord-américain de basketball.
La Nouvelle-Orléans a défait Denver hier soir 122-107 grâce notamment à Jalil Okafor, 26 points et 5 rebonds. Victoire des Clippers de Los Angeles contre San Antonio. Et c'est cette victoire dont le bourreau de San Antonio pour cette première défaite de la saison n'aura été que son ancien poulain Kawhi Leonard.
Merci Timothée pour toutes ces précisions.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Irune Ermanoumbo. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Je le disais dans la première partie de cette édition, le Parlement béninois a voté hier une limitation des mandats présidentiels et législatifs dans une ambiance de contestation. Les forces politiques non représentées à l'hémicycle dénoncent un coup de force, une mise en danger de la patrie. Le point avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Flore Adondé.
C'est pas 83 voix pour, 0 contre et 0 abstention que les députés de la 8e législature ont procédé à la modification de la constitution du Bénin il y a quelques jours lorsque le comité des experts déposait son rapport au chef de l'État sur les stratégies à adopter pour la mise en œuvre des recommandations issues du dialogue politique. Patrice Talon avait émis le vœu que la constitution ne soit pas touchée au risque d'embraser le pays.
J'ai désormais une certaine aversion pour cette question que je l'ai dit ouvertement à plusieurs occasions que je ne souhaitais plus durant mon mandat, en tout cas pour le reste du mandat, revenir sur cette question qui soulève beaucoup d'incompréhension et de polémiques, même si parfois le bien fondé n'est pas à démontrer. J'avais secrètement espéré que la mise en œuvre de ces recommandations puisse trouver une habileté juridique qui peut-être nous éviterait une retouche.
En attendant les prochaines étapes, à savoir celle du contrôle de constitutionnalité et celle de la promulgation par le chef de l'État, on peut retenir essentiellement que le président de la République ne peut faire plus de 2 mandats dans sa vie. Les députés ne pourront plus excéder 3 mandats. La révision constitutionnelle supprime la peine de mort, constitutionnalise la Cour des comptes et fixe l'organisation des élections générales pour 2026. Par ailleurs, elle institue le parrainage des candidats pour ce qui concerne les élections présidentielles à compter de 2021 et instaure le ticket présidentiel, président et vice-président. Les forces de l'opposition non représentées au Parlement ont dénoncé la ruse politique orchestrée par le chef de l'État. Pour l'ancien président Nicéphore Soglo, le président Patrice Talon est le seul responsable de ce qui se passe aujourd'hui.
Nous pensons que le projet, s'il était retenu, relèverait d'une vaste escroquerie politique. Nous prenons à nouveau l'opinion nationale et internationale à témoin. Je veux dire, les forces de la résistance nationale tiennent le président Talon pour responsable de l'aggravation de la crise qui secoue le pays.
Au sein de la population, certains ne comprennent pas pourquoi la révision de la Constitution s'est faite de façon aussi rapide et en procédure d'urgence. Pour Bob Batchor, un jeune entrepreneur, il y a comme une intention cachée derrière cette modification à pas forcer.
Au Bénin, ce qui se passe s'apparente à une volonté manifeste et exagérée d'imposer une vision au peuple, quoique la Constitution demeure l'habillement du politique. Pour une révision qui se veut juste et objective, il faut la nécessité pour l'élite populaire et les forces vives, à défaut de l'ensemble de la population, de s'en imprégner et d'en discuter afin de retenir les amendements substantiels.
Il faut noter que les élus ont adopté un peu plus tôt dans la journée du jeudi la loi portant amnistie des faits criminels, délictuels et contraventionnels en République du Bénin lors des élections législatives d'avril 2019. Tous les regards sont maintenant tournés vers le chef de l'État qui dispose du droit de promulguer ou non cette modification constitutionnelle. De Cotonou, Ginette Lua dans les Pouvées au Afrique.
Bonsoir, Abdourahmane Dia avec vous dans l'Amérique et vous. Ce soir à 19h, temps universel, le président américain Donald Trump retire le Cameroun de la liste des bénéficiaires de l'AGOA qui accorde des traitements commerciaux préférentiels aux pays africains. Washington accuse Yaoundé de violations grossières et répétées des droits humains. En 2017, les importations américaines dans le cadre de l'AGOA ont atteint près de 14 milliards de dollars en provenance de 39 pays du continent. Pour parler de l'impact de cette décision, laissez-nous vos numéros et commentaires sur notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33.
En République démocratique du Congo, les bases d'une paix définitive et la réconciliation intercommunautaire passent par la restauration de la vérité sur les massacres perpétrés au sud de Kivu de 1996 à nos jours, a déclaré le député provincial Omer Boulakali. C'était à l'occasion d'un forum des forces vives. Les précisions avec notre correspondant à Bukavu, Ernest Mouero.
Les acteurs de la société civile, la notabilité locale, le représentant des communautés et leaders religieux réunis pour ces forums examinent la délicate question de massacres et tueries successifs perpétrés depuis 23 ans au sud Kivu. C'est en vue d'exiger la réparation et la justice. Une initiative de l'élu de Bukavu, le député provincial Omer Boulakali, qui s'appuie sur les rapports mapping et d'autres enquêtes locales sur des massacres en RDC en vue de plaider pour l'effectivité d'un tribunal spécial pour le Congo.
Nous estimons à environ 10 millions de citoyens congolais tués lâchement, assassinés. C'est vraiment grave. Les gens cachent la vérité. Et le traumatisme psychique issu de ces tueries a invalidé les Congolais de sorte que le développement du Congo semble être impossible sans qu'on en ait parlé et qu'on ait résolu les problèmes en disant la vérité. Et il n'y aura jamais de paix sans une justice équitable. Ce que nous commençons aujourd'hui, ce sont des bases pour que nous puissions avoir un tribunal sur le Congo et une réconciliation entre les communautés qui va aboutir à un vivre ensemble définitif sans couacre.
Après avoir passé en revue les cas de massacres et tueries enregistrés territoire après territoire, les participants ont reconnu à l'unanimité qu'il y a eu des tireurs de ficelles. Professeur Timothée Mouchagaloussa, enseignant à l'université, pense que pour une bonne cohésion intercommunautaire, ce face-à-face est nécessaire et devra se poursuivre.
C'est une initiative louable puisque quand on ne connaît pas les causes qui ont été à la base de ce qu'on a vécu comme bévue humaine. On ne peut pas être en mesure de faire une refondation pour un avenir radieux pour tout le monde. On s'engage, c'est pour notre survie commune, puisque la paix nous aide à mener une vie commune partagée dans une cohabitation aussi acceptée.
La dynamique pour la recherche de la paix et de la vérité sur les massacres survenus depuis 1996 envisage bientôt de descendre sur terrain pour rencontrer les communautés et documenter davantage les dossiers en vue d'une plainte à déposer à la Cour pénale internationale. Ernest Mouero, Bukavu pour VOA Afrique.
VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Parlons toujours de la RDC, Kinshasa et Kigali devraient lancer simultanément l'administration d'un deuxième vaccin fabriqué par la filiale belge de Johnson & Johnson. Les doses ont commencé à arriver, mais leur utilisation est projetée au plus tard à mi-novembre. Eddy Issongo a joint à Goma le directeur de la cellule technique de lutte contre Ebola en RDC, Dr Jean-Jacques Mouyembe, pour plus de précisions.
On ne peut pas dire expérimental. Donc, ce vaccin va être administré dans un protocole d'étude. Comme le premier vaccin RVSV, c'est dans un protocole d'étude. Et pour nous, le premier lot est arrivé cet après-midi ici à Goma. Nous pensons qu'on va administrer les premières doses d'ici le 6 ou le 7 novembre.
Il s'agit bien des 500 000 doses, mais qui ne seront administrées qu'en RDC.
Les 500 000 doses vont venir par tranche. Aujourd'hui, nous avons reçu 15 000 doses et puis alors après, il y aura encore... ça va venir progressivement.
Je vous dis que vous commencez à l'administrer à Goma, mais pourtant nous avons appris que ça devrait être fait pour la région, c'est-à-dire le Rwanda et les autres pays environnants.
C'est-à-dire que nous avons fait ceci parce que le Rwanda n'est pas encore prêt et nous, on est déjà prêt. Donc, comme ce vaccin est arrivé, nous allons commencer. Mais le lancement officiel se fera ensemble avec le Rwanda et nous pensons que ce sera vers la fin du mois de novembre. Mais nous ferons donc le lancement officiel. Nous allons commencer avec deux quartiers de la ville de Goma.
Est-ce que c'est ce qui était convenu lors de la rencontre régionale des experts en matière de la santé, précisément d'Ebola, deux semaines plus tôt?
Alors, je sais que réunion, il était convenu donc que nous puissions lancer en même temps. Le plus important, c'est de lancer en même temps. Mais nous pouvons commencer, nous, puisqu'on est déjà prêts, nous pouvons commencer à vacciner. Et le lancement officiel, comme je vous dis, entre les deux pays, se fera donc vers la fin de novembre. Mais aussitôt que nos amis de Rwanda sont prêts, alors nous ferons un lancement officiel transfrontalier donc, pour les deux pays.
Si je comprends bien, il s'agit bien du vaccin AD26, tout ça fabriqué par Johnson & Johnson. Mais pourquoi un deuxième vaccin alors?
Nous faisons un deuxième vaccin parce que ça a été recommandé par le groupe SAGE qui conseille l'Organisation mondiale de la santé en matière de vaccination. Ce groupe avait fait deux recommandations. La première recommandation, c'était d'utiliser la dose ajustée du vaccin RVSV. Et la deuxième recommandation, c'était donc de faire recours à un deuxième vaccin, un vaccin préventif et notamment donc le vaccin Johnson & Johnson.
Ceci va permettre donc à couvrir l'insuffisance des doses pour les premiers vaccins.
Pour nous, d'abord, c'est d'avoir un plus grand nombre de gens qui sont donc vaccinés, qui ont donc l'immunité, ce qui peut faire donc arrêter la transmission du virus. Et deuxièmement, on a besoin de connaissances supplémentaires en matière de vaccination Ebola pour les épidémies à venir.
Docteur Jean-Jacques Mouyembe, directeur de la cellule technique de lutte contre Ebola en RDC.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Direction la Centrafrique pour parler d'un retour triomphal au pays. 5 jeunes Centrafricains ont participé du 24 au 27 octobre à un concours de robotique qui a réuni à Dubaï environ 1500 personnes issues de 191 pays. Il s'agit de la deuxième compétition internationale à laquelle les jeunes Centrafricains participent dans ce domaine. Pascal Serra nous amène à leur rencontre.
Israël, Brunita, Benjamin, Gracia et Saïd, âgés de 13 à 18 ans, reviennent de Dubaï où ils ont participé au First Global DBX Challenge édition 2019, un événement qui rassemble des jeunes créatifs dans les domaines de la robotique et de l'intelligence artificielle. Pour cette occasion, l'équipe des jeunes centrafricains baptisée First Bay Africa a concouru en présentant un robot appelé Kité, qui signifie le défi en langue nationale Sango. Brunita Bilesia est âgée de 15 ans et est participante au concours de robotique à Dubaï.
Ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que ce soit les pays africains, européens, asiatiques, ils étaient tous, sympathiques. Et je pense que s'il y a la solidarité en Centrafrique, nous pouvons faire beaucoup de changements.
Israël Gwangouni est âgée de 13 ans et est également participant au concours de robotique à Dubaï.
Je me sens bien au retour de la compétition. Après Dubaï, je vais continuer les entraînements robotiques pour me perfectionner.
Les jeunes ont présenté un robot capable de procéder à la récupération des déchets. Ils ont bénéficié d'une formation portant sur les bases de la robotique et de la programmation. Une formation dispensée par une équipe de bénévoles dont la mission est entre autres de redorer le blason du pays en mettant en lumière des jeunes centrafricains talentueux. Cédric Zouadé, encadreur et formateur bénévole.
Nous sommes donné ce défi-là et de faire participer ces enfants à cette compétition dans l'objectif déjà de montrer aux yeux du monde entier que la Centrafrique, au-delà de tout ce que les médias montrent, il y a une Centrafrique qui gagne.
D'ici le mois de décembre, les encadreurs espèrent pouvoir mettre en place un projet plus important qui consistera à regrouper une cinquantaine d'enfants intéressés par les nouvelles technologies et notamment par la robotique.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Voilà, ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Merci de l'avoir suivi. À la console, Nelson Lopez. À la mise en onde, Michel Joseph. Un grand merci à toute la rédaction, Irénée Hermanoumbo à Washington. Bonne suite de programmes sur VOA Afrique. Restez en position, Henri Francisque est déjà là.
Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique.